32. Quand je revins dans ma chambre lui dire qu'on allait le mettre au fer, je le trouvai assis sur mon lit, les poings fermés, les dents serrées de rage. Sa mauvaise tête de breton avait pris le dessus. En frappant du pied, il déclara qu'il n'irait pas. C'était trop injuste, à moins qu'on ne l'y portât de force, et encore il démolirait les premiers qui viendraient pour le prendre. Alors, pour tout de bon, je le vis perdu. Et l'angoisse commença à m'étreindre le cœur. Que faire? Les hommes de garde étaient là, derrière ma porte, attendant pour l'emmener, et je n'osais pas ouvrir. Les secondes et les instants s'envolaient, et ce que je faisais n'avait plus de nom. Une idée me vint tout à coup. Je le priai très doucement, au nom de sa mère, lui rappelant mon serment, et pour la seconde fois de ma vie, l'appelant mon frère. Yves pleura, c'était fini. Il était vaincu et docile. Je jetai de l'eau sur son front, je rajustai un peu sa chemise et j'ouvris ma porte. Tout cela n'avait pas duré 3 minutes. Les hommes de garde parurent. Lui se leva et les suivit, doux comme un enfant. Il se retourna pour me sourire, alla répondre avec calme à l'interrogatoire du commandant et se rendit tranquillement à la cale pour se faire mettre au fer. Vers minuit, quand ce quart pénible fut terminé, j'allai me coucher, en voyant à Yves une couverture et un manteau. Il faisait déjà froid cette nuit-là. C'était, dans mon impuissance, tout ce que je pouvais encore pour lui. 33. Le lendemain, un lundi, le commandant me fit appeler dès le matin, et j'entrai chez lui avec un sentiment de rancune dans le cœur, avec des paroles âpres toutes prêtes que je lui aurais lancées dès l'abord pour me venger de mes supplications d'hier, si je n'avais pas craint d'aggraver le sort d'Yves. Je m'étais trompé, cependant. Il avait été touché la veille et m'avait compris. « Vous pouvez aller trouver votre ami. Sermonnez-le un peu tout de même, et dites-lui que je lui pardonne. L'affaire ne sortira pas du bord et se réglera par une simple punition disciplinaire. 8 jours de fer et ce sera tout. J'inflige aux 3 maîtres, sur votre demande, une punition équivalente, 8 jours d'arrêt forcé. Je fais cela pour vous qui le traitez en frère, et pour lui aussi qui est, après tout, le meilleur homme du bord. » Et je m'en allais autrement que je n'étais venu, emportant pour lui de la reconnaissance et de l'affection. 34. Un coin de la cale de la Médée, en plein désarmement, dans le plus grand désarroi. Un fanal éclaire un vaste fouillis d'objets hétérogènes, plus ou moins grignotés par les rats. Une douzaine de matelots, Barada, Guiaveri, Barazer, le Hélo, toute la bande des amis, entourent un homme couché par terre. C'est Yves qui est au fer, étendu sur les planches humides, la tête appuyée sur son coude, le pied pris dans l'anneau à cadenas de la barre de justice. Son ennemi le plus acharné des trois, Maître Lagatu, est là devant lui qui le menace avec sa vieille voix d'ivrogne. Il le menace d'une revanche de cette histoire de chaloupe, dans laquelle, à son gré, j'ai trop mis la main. Il a quitté ses arrêts pour venir l'injurier, et moi qui suis le quart et qui fais une ronde, j'arrive par derrière et je le trouve là, comme il est de bonne prise. Les matelots qui me voient venir rient tout doucement dans leur barbe, en songeant à ce qui va se passer. Yves, lui, ne répond rien, se contentant de se coucher sur l'autre côté et de lui tourner le dos avec une suprême insolence. Lui aussi m'a vu venir. « Nous avons commencé une partie d'écarté ensemble, » dit Maître Lagatu. « Vous, Kermadec, quartier maître de manœuvre, moi, Lagatu, premier maître canonnier, décoré de la Légion d'honneur. Grâce à des officiers qui vous protègent, vous avez fait les 2 premières levées. Reste à savoir qui va faire les 3 autres. » « Maître Lagatu, dis-je par derrière, nous jouerons cela à 3 si vous voulez bien. Un rams, ce sera plus gai. Et toi, mon bon Yves, marque encore une levée. » Une poule qui trouve un couteau, un voleur qui trébuche sur un gendarme, une souris qui par mégarde pose la patte sur un chat, n'ont pas la mine plus longue que Maître Lagatu. Ce n'était peut-être pas très correct, cette plaisanterie que je venais de faire. Mais la galerie, qui nous était très sympathique, jouissait beaucoup de ce triomphe d'Yves. 35. 8 jours après, c'était fini de notre frégate. Désarmé au fond de l'arsenal, son équipage dispersé, autant dire un navire mort. Je m'en allais et Yves venait m'accompagner au chemin de fer. La gare était encombrée de matelots, tous ceux de la Médée qui partaient aussi, d'autres encore en bordée, venus pour les reconduire. Parmi eux, beaucoup d'anciennes connaissances à nous, des protégés des amis d'Yves. Et tous ces braves gens, un peu gris, mettaient bas leurs bonnets, nous faisant leurs adieux avec effusion. C'étaient les scènes habituelles de tous les désarmements. Un bateau qui finit, c'est quelque chose à part. C'est l'explosion de toutes les reconnaissances et de toutes les rancunes, de toutes les haines et de toutes les sympathies. À l'entrée des salles d'attente, en serrant les mains d'Yves, je lui disais « M'écriras-tu au moins ?» Et lui répondait « Je vais vous expliquer. » Et il hésitait toujours avec un sourire doux et intimidé. « Eh bien voilà, je vais vous expliquer, c'est que je ne sais pas comment vous mettre au commencement. » En effet, les appellations de capitaine, cher capitaine et autres du même genre ne pourraient plus nous aller. « Alors quoi ?» Je répondis « Eh bien, c'est très simple. » Je cherche longtemps cette chose simple, ne trouvant pas du tout. « C'est très simple, tu mettras mon frère. Ce sera vrai d'abord, et en style épistolaire, ce sera très convenable. » 36. Il y avait environ 6 semaines que la Médée avait été désarmée à Brest et que j'étais séparé d'Yves, quand un jour à Athènes, je crois, je reçus cette surprenante lettre. Brest, 15 septembre 1877. Mon bon frère, je vous écris ces quelques mots bien à courir pour vous faire savoir que je me suis marié hier. Et ma foi, j'aurais bien pu vous demander conseil auparavant. Mais, vous comprenez, je n'avais pas du tout de temps à perdre, étant désigné pour faire la campagne de la Cornélie et n'ayant que 8 jours devant moi à passer avec ma femme. Je pense que vous trouverez, vous aussi, mon bon frère, que cela vaut bien mieux que d'être toujours à courir, comme vous savez, d'un bord et de l'autre. Ma femme s'appelle Marie Kérémenen. Je vous dirai qu'elle me plaît beaucoup, et je crois que nous irions très bien ensemble si seulement je pouvais rester. Je vous écrirai un peu plus long avant de partir, mon bon frère, et je vous promets que je suis bien triste de m'embarquer cette fois sans vous. Je termine en vous embrassant de tout mon cœur, votre frère qui vous aime, à vous, Yves Kermadec. P.S. Je viens d'apprendre que ma destination est changée. J'embarque sur l'Ariane, qui ne part qu'à la mi-novembre. Cela me donne près de 2 mois à passer avec ma femme. Nous aurons tout à fait le temps de faire connaissance, et vous pensez que je suis bien content. Au retour de leur campagne, les matelots font 1000 extravagances avec leur argent. C'est de règle, les villes maritimes connaissent leurs excentricités un peu sauvages. Quelquefois même ils épousent, en manière de passe-temps, des femmes quelconques pour avoir une occasion de mettre une redingote noire. Et Yves, lui, qui avait déjà épuisé autrefois tous les gens de sottise pour changer, avait fini par un mariage. Yves marié. Et avec qui, mon Dieu? Peut-être quelque effronté de la ville, ramassé au hasard dans un moment où il était gris. J'avais sujet d'être inquiet, me rappelant certaines créatures en chapeau à plumes qu'il avait failli épouser par distraction à 20 ans dans cette même ville de Brest. 37. 2 mois plus tard, quand cette Ariane fut prête à partir, le sort voulut que je fusse désigné, moi aussi, à la dernière heure, pour faire partie de son état-major. 38. Au moment du départ, je fis cette Marie Kérémenen que j'appréhendais de connaître. C'était une jeune femme d'environ 20 ans qui portait le costume du village de Toulven en Basse-Bretagne. Ses beaux yeux noirs regardaient clairs et francs. Sans être absolument jolie, elle était presque charmante, avec son corsage de drap brodé, sa coiffe blanche à grandes ailes et sa large collerette rappelant les fraises à la Médicis. Il y avait en elle quelque chose de candide et d'honnête qu'on aimait à regarder. Il me parut que je l'aurais précisément désirée ainsi si j'avais été chargé de la choisir moi-même pour mon frère Yves. 39. Le hasard les avait rapprochés tous deux un jour qu'elle était venue voir sa marraine à Brest. Le galant avait été vite en besogne, et elle, séduite par le grand air d'Yves, par son bon sourire doux, s'était laissée aller, avec une certaine inquiétude cependant, à ce mariage précipité qui allait, pour commencer, la faire veuve pendant 7 ou 8 mois. Elle avait un peu de bien, comme on dit à la campagne, et devait s'en retourner aussitôt après notre départ chez ses parents dans son village de Toulven. Yves me confia qu'on prévoyait l'arrivée d'un petit enfant. « Vous verrez, dit-il, je parierai qu'il arrivera juste pour notre retour. » Et il embrassa sa femme qui pleurait. Nous partîmes. Encore une fois, nous nous en allions ensemble, nous promener là-bas dans le domaine bleu des poissons volants et des dorades. 40. 15 novembre 1877. La veille de ce départ, Yves avait obtenu par faveur d'aller à terre dans le jour pour voir à l'hôpital maritime son grand frère Gilda, le pêcheur de baleines, qui venait d'arriver à moitié perdu et qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Gilda Kermadec était un homme de 40 ans, de haute taille, la figure plus régulière que celle d'Yves. On voyait encore dans ses grands yeux comme une flamme éteinte. Il avait dû être très beau. Il était paralysé et mourant, perdu par l'eau-de-vie et les excès de tout genre. Il avait usé sa vie à plaisir, semé sa sève et ses forces sur tous les grands chemins du monde. Il s'avança lentement, appuyé sur un bâton, encore droit et cambré, mais traînant la jambe et le regard égaré. « Oh, Yves !» dit-il par 3 fois. « Oh, Yves ! Oh, Yves !» C'était à peine articulé. La parole était aussi paralysée chez lui. Il ouvrit les bras à Yves pour l'embrasser, et des larmes coulèrent sur ses joues brunes. Yves aussi pleura. Et puis vite, il fallut partir. La permission qu'on lui avait donnée n'était que 1 heure. Du reste, Gilda ne parlait plus. Il avait fait asseoir Yves près de lui sur un banc d'hôpital, et lui tenant la main, il le regardait avec ses yeux de fou, près de mourir. D'abord, il avait bien essayé de lui dire plusieurs choses qui semblaient se presser dans sa tête. Mais il ne sortait de ses lèvres que des sons inarticulés, rauques, profonds, qui faisaient mal à entendre. Non, il ne pouvait plus. Alors il se contentait de lui tenir la main et de le regarder avec une tristesse infinie. Yves emporta une impression profonde de cette entrevue dernière avec son frère Gilda. Il ne s'était revu que 2 fois depuis que Gilda était partie pour la mer. Mais ils étaient frères, frères de la même chaumière et du même sang, et c'est là quelque chose de mystérieux, un lien qui résiste à tout. 1 mois plus tard, à notre première relâche, nous apprîmes que Gilda était mort. Alors Yves mit un crêpe à sa manche de laine. 41. À bord de l'Ariane, mai 1878. L'île de Tenerife se dessinait devant nous comme une sorte de grand édifice pyramidal placé sur une immense glace réfléchissante qui était la mer. Les côtes tourmentées, les arêtes gigantesques des montagnes, étaient rapprochées, rapetissées par la limpidité extrême, invraisemblable, de l'air. On distinguait tout, les angles vifs un peu rosés, les creux un peu bleus. Et tout cela posait sur la mer comme une grande découpure légère, sans poids. Une bande très nette de nuages d'un gris nacré coupait Tenerife horizontalement par le milieu, et au-dessus, le pic dressait son grand cône baigné de soleil. Les goélands faisaient un tapage extraordinaire autour de nous. Ils étaient une bande qui criait et battait l'air de leurs ailes blanches dans un des accès de frénésie qui les prend quelquefois, on ne sait à quel propos. Midi. Le dîner de l'équipage venait de finir. On avait sifflé, les tribordais à ramasser les plats. Et Yves, qui était tribordais à bord de l'Ariane, remontait sur le pont et venait à moi, essayant tout doucement son sifflet pour s'assurer qu'il marchait toujours bien. « Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, les goélands? Piolé, piolé, tout le temps du dîner. Avez-vous entendu ?»« Vraiment, non, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient bien avoir, les goélands. » Cependant, comme il fallait par politesse répondre quelque chose à Yves, je lui racontai à peu près ceci. Ils ont demandé à parler à l'officier de quart, qui était précisément moi. c'était pour s'informer de leur petit cousin Pierre Kermadec. Alors je leur ai répondu, « Messieurs, le petit Kermadec, mon filleul, n'est pas encore né. C'est trop tôt. Repassez dans quelques jours, quand nous serons à Brest. » Aussi, tu vois, ils sont partis. Regarde-les tous qui s'en vont là-bas. « Vous leur avez répondu tout à fait comme il faut, » dit Yves, qui riait assez rarement. « Mais je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup rêvé là-dessus, encore cette nuit, et savez-vous, une peur qui me vient, c'est que ce soit une petite fille. » En effet, quelle contrariété, si ce filleul attendu allait être une petite fille. Il n'y aurait plus moyen de l'appeler Pierre. Cette parenté du petit enfant d'Yves avec les goélands n'était pas de mon invention. Goéland était le nom qu'on donnait aux gabiers à bord de cette Ariane, et le nom qu'ils se donnaient entre eux. Il n'y avait donc pas à s'étonner que mon petit filleul à venir dût avoir un peu de ce sang d'oiseau. Ainsi, en parlant de lui dans nos conversations du soir, nous disions toujours « Quand le petit goéland sera arrivé ?» Jamais nous ne l'appelions d'une autre manière. 42. Brest, 13 juin 1878. Nous habitons pour aujourd'hui un logis de hasard rue de Siam à Brest, où l'Ariane est revenue mouillée ce matin. En réponse à l'avis de son arrivée, Yves a reçu de Toulven, du vieux Kéréménen, la dépêche suivante. « Petit garçon né cette nuit, se porte très bien, Marie aussi, Corentin Kéréménen. » La nuit venue et nous couchés, impossible de dormir. J'entends Yves dans son lit, qui se tourne, se vire, comme il dit avec son accent breton. À l'idée qu'il ira demain à Toulven voir ce petit nouveau-né, son bon et brave cœur déborde de toutes sortes de sentiments dans lesquels il ne se reconnaît plus. Deux jours après, je dois moi aussi me rendre à Toulven pour le baptême. Et il fait 1000 projets pour cette cérémonie. Je n'ose pas vous le dire, mais si vous vouliez, à Toulven, manger chez nous. Dame, vous savez, chez mon beau-père, ça n'est pas comme à la ville, bien sûr. 43. Brest, 15 juin 1878. Dès le matin, je pars pour Toulven, où Yves m'attend depuis hier. Temps splendide. La vieille Bretagne est verte et fleurie. Tout le long du chemin, de grands bois, des rochers. Yves est là, à l'arrivée de la diligence que j'ai prise à Banalec. Près de lui se tient une jeune fille de 18 ou 20 ans qui rougit, bien jolie sous sa grande coiffe. « Voici Anne, me dit Yves, ma belle-sœur, la marraine. » Il y a encore une petite distance entre le bourg et la chaumière qu'ils habitent à Trémelé, en Toulven. Des gars du village chargent mes mâles sur leurs épaules et me voilà en route pour faire ma visite au goéland qui vient de naître. Pour faire connaissance aussi avec cette famille de bas-bretons dans laquelle mon pauvre Yves est entré par coup de tête sans trop savoir pourquoi. Comment seront-ils ces nouveaux parents de mon frère Yves et ce pays qui va devenir le sien? 44. Nous nous acheminons tous trois par des sentiers creux très profonds qui fuient devant nous sous le couvert des hêtres et qui sont tout pleins de fougères. C'est le soir. Le ciel est couvert et il fait dans ses chemins une espèce de nuit qui sent le chèvrefeuille. Ça et là sont rangés au bord des chaumières grises, très antiques, tapissées de mousse. Il y en a une d'où part une chanson à dormir, chantée en cadence lente par une voix très vieille aussi. « Boudoul, boudoul, galaïchen, boudoul, boudoul, galaïchtu. » « C'est lui qu'on berce, » dit Yves en souriant. « Voici chez nous. » Elle est à moitié enfouie et toute moussue, cette chaumière des vieux Kéréménen. Les chênes et les hêtres étendent au-dessus leur voûte verte. Elle semble aussi ancienne que la terre des chemins. Au-dedans, il fait sombre. On voit les lits en forme d'armoire, alignés avec les bahuts le long du granit brut des murs. Une grand-mère en large collerette blanche est là qui chante auprès du nouveau-né, qui chante un air du temps de son enfance. Dans un berceau d'une mode bretonne d'autrefois, qui avant lui avait bercé ses ancêtres, est couché le petit goéland. Un gros bébé de 3 jours, tout rond, tout noir, déjà basané comme un marin et qui dort, les poings fermés sous son menton. Il a de tout petits cheveux qui sortent de son bonnet sur son front comme des petits poils de souris. Je l'embrasse, et de tout mon cœur, parce que c'est le bébé d'Yves. Pauvre petit goéland, dis-je en touchant le plus doucement possible ses petits cheveux de souris. Il n'a pas encore beaucoup de plumes. C'est vrai, dit Yves en riant. Et puis, regardez, ajoute-t-il, en étendant avec des précautions infinies la petite patte fermée dans sa main rude. Je ne l'ai pas très bien réussi, il n'a pas du tout la peau d'entre-doigts. On nous dit que Marie Kermadec est couchée dans un de ces lits dont on a refermé sur elle la petite porte de bois à jour parce qu'elle vient de s'endormir. Nous baissons la voix de peur de l'éveiller et nous sortons, Yves et moi, pour aller faire dans le village plusieurs démarches que nécessite la solennité de demain. 45. Nous trouvons drôle de nous voir tous deux faisant acte de citoyens comme tout le monde. Chez monsieur le maire, chez monsieur le curé, nous nous sentons très empruntés, ayant même par instant des envies de rire. Petit goéland est définitivement inscrit au registre de Toulven sous les prénoms de Yves Pierre, celui de son père et le mien, comme c'est l'usage dans le pays. Quant à monsieur le curé, il est convenu avec lui qu'il nous attendra demain matin à 9 heures à l'église et qu'il y aura un tédéum. Maintenant, rentrons tout droit, dit Yves. Le père doit être déjà de retour et nous les retarderions pour souper.